Je vais le dire. Mais d'abord, je veux me présenter. Bon, d'abord, un mot sur Cathy Dufour. En fait, moi, je ne la connaissais pas beaucoup. Même, je dirais, si je me souviens bien, je ne l'ai vue qu'une seule fois dans ma vie. Mais d'après ce que j'ai compris de son parcours, je me retrouve pas mal dans ce qu'elle a fait. Parce que, donc, elle était institutionnellement physicienne dans un laboratoire de physique. Et puis, elle a décidé de s'intéresser à, d'une part, la philosophie des sciences, l'histoire des sciences, et aussi avec comme objet, disons, son champ d'origine, si je ne me trompe pas. Donc, moi, j'ai fait à peu près la même chose pour des raisons, bon, parce que je suis au placard, en fait, non. Mais, bon, elle, je ne sais pas. Et bon, bref, donc c'est ce que je vais vous présenter là, c'est-à-dire une étude sur mon domaine d'origine. Le deuxième truc que je voulais dire, avant de parler de RTFM, c'est le remerciement pour les organisateurs, parce que en 20 ans de carrière, c'est la première fois où je parle dans une conférence où il y a un lien avec l'intervenant d'avant et l'intervenant d'après. c'est fort. Et voilà. Donc d'abord, il y a un lien chronologique, parce que donc on a vu les années 70, on va voir les années 2010 après. Moi, je parlais des années 90, grosso modo. Donc, mais il y a aussi un autre lien du point de vue du contenu. Et donc, j'y arrive. La première chose pour laquelle je voudrais m'excuser, c'est tous les anglicismes et les néologismes et les acronymes qui vont parsemer mon intervention, parce que bon, je parle français, mais mon niveau d'anglais est médiocre, mais l'objet que j'étudie, d'une part, il se passe essentiellement aux États-Unis, vous allez voir pourquoi, et d'autre part, il se passe sur Internet. À une époque, les années 90, où il n'y avait pas d'autre langue que l'anglais sur Internet, bon, je simplifie, hein, mais vous allez vous rendre compte aussi pourquoi. Et aussi, donc, pour lequel y a pas mal de mots, bien que je respecte la francophonie et tout ça, mais il y a pas mal de mots, d'une part, que je ne saurais pas traduire effectivement en français, d'autre part, que aussi, c'est plus facile de directement parler en anglais. Donc, rien que dans le titre, vous avez un acronyme, RTFM, ça veut dire « Read the fucking manual », c'est ce qu'on dit quand quelqu'un pose une question sur un logiciel et qu'on lui répond « t'as qu'à lire le manuel ». Et ce qui n'est pas une réponse c'est aussi évidente que ça, on va voir pourquoi. Et alors, le mot computationnel aussi que tu as introduit, beaucoup de Français n'aiment pas, par exemple Jean-Louis Rivaille, qui est notre maître à tous, on peut dire ça. En tout cas, c'est la star de la chimie théorique. Il y a d'autres stars, mais bon, bref. Donc, bref, en tout cas, je me souviens que oui, d'ailleurs, dans le DEA, il s'appelait chimie informatique, hein, et peut-être toujours même. Et informatique, plus personne n'utilise ce mot-là de nos jours, mais computationnel non plus. Mais pourquoi j'ai mis computationnel et pas informatique? Parce que d'une part, donc en anglais, le mot, la communauté que je vais essayer de cerner, ça s'appelle, on peut appeler ça la computational chemistry. Et d'autre part, et donc je traduis par computationnel. Et il y avait un autre. En français, on a tendance à se définir comme des chimistes théoriciens, et je vais faire une petite différence, justement à cause des années 90, entre les deux. Et puis pourquoi software et pas logiciel? Parce que dans le mot software, et en anglais, bien que je ne sois pas un anglophone très, très fort, le software, ce n'est pas seulement un objet, c'est aussi un concept, on pourrait dire logiciel aussi, mais ça me semble moins naturel. Par exemple, vous savez, souvent en anglais, le mot en tant que concept, c'est software, et le mot logiciel en tant qu'objet, on dit plutôt piece of software, comme on dit une piece of news, bref. Donc, software, c'est l'idée de logiciel que je vais. Mon argument, c'est de dire que c'est ça qui est important dans la vie. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que je vais dire? Je vais définir ce que c'est, puisque je viens de dire que c'était quelque chose d'un peu différent de la theoretical chemistry. Qu'est-ce que c'est la computational chemistry? Je vais vous présenter la Computational Chemistry List, qui est une mailing list. Bon, je ne sais pas comment dire en français. Une liste de diffusion, ouais, exact. Et il se trouve que c'est une histoire des sciences que je vais faire, et donc la CCL, la Computational Chemistry List, c'est mon corpus, et je vais passer quelques minutes à vous le présenter, parce que j'en suis très fier. Et voilà, et donc c'est ce qu'on va utiliser ensuite pour dire des choses intéressantes sur les rapports entre le scientifique et l'ordinateur. Ben, donc on va essayer d'être intéressant. Bien. Donc, je vais d'abord essayer de dire en deux mots, parce qu'il y a des spécialistes et il y a des gens qui peut-être connaissent moins bien le domaine ici. Qu'est-ce que c'est que la computational chemistry? Une définition, on a tenté des définitions, pour définir ce champ, on peut dire, c'est tous les chimistes qui utilisent un ordinateur. On peut les appeler des computational chemists. En fait, on peut donner une définition. Ouais. Une définition un peu plus restreinte, bon, c'est pour essayer juste de restreindre notre champ, et il y a des tas de gens qui font des tas d'autres choses qu'on pourrait appeler des computational chemists, mais si je veux faire le lien avec la theoretical chemistry, il y a, on peut dire que les computational chemists sont les héritiers des chimistes théoriciens, au sens où à partir du moment où est apparu effectivement l'ordinateur, alors, faire de la chimie théorique, c'est devenu quelque chose de pratique. Donc, là, je mets deux, trois dates jetées comme ça, en fait, que tu as présenté bien mieux que moi il y a quelques minutes. On peut dire, grosso modo, que dans les années 30, dès que la mécanique quantique est apparue, on a inventé la quantum chemistry, que certains pourraient dire que c'est ça, la theoretical chemistry. Donc bien avant que les ordinateurs existent, et qu'ensuite sont apparus ce qu'on pourrait appeler les molécules mécaniques, etc. Donc deux modèles, épistémologiquement complètement différents, ça dit, etc. Bref, tout ça pour dire, je vais appeler un computational chemist, un scientifique, qui va utiliser l'ordinateur pour essayer de résoudre ces problèmes de théorie. Donc évidemment, ça veut dire que c'est une science qui est directement liée à l'histoire des ordinateurs. Et j'envoie des chiffres un peu larges, mais entre les années 60 et les années 2000, donc évidemment, vous n'avez pas besoin d'être scientifique pour savoir que les ordinateurs ont très légèrement évolué de quelque chose de très, à la fois un gros instrument et quelque chose de lié à des experts qui étaient les supercomputers, et il n'y avait que ça, on peut ensuite dans les mini, les computers, les workstations, et enfin, les PC, disons les années 80 pour faire vite. Et en quoi ça a une influence sur notre champ scientifique, c'est que de plus en plus, l'ordinateur est devenu un outil de masse, pas au sens du grand public dans la vie en général, mais en tout cas au moins de masse chez les chercheurs. C'est-à-dire, l'ordinateur s'est invité dans le bureau ou dans le labo des chercheurs plutôt que d'être un super instrument très loin. Ce qui a fait que, et c'est ça mon premier point, le développeur, le user, l'utilisateur, au bout d'un moment, n'ont plus été forcément la même personne. C'est-à-dire que, donc, mon premier point, le computational chemist, on pourrait, si on voulait faire une séparation, dire qu'il y en a plusieurs sortes, et qu'on va le voir, ceux qui se considèrent comme des gens qui écrivent les logiciels et ceux qui vont les utiliser sans les écrire, c'est deux communautés qui ne sont pas forcément les mêmes, et pourtant qu'on pourrait relier par le même nom. Donc, mon idée, c'est que la question du logiciel, puisque la personne qui va l'écrire et la personne qui va l'utiliser sont plus forcément la même personne, bah, ça devient quelque chose de hyper important en tant qu'outil de communication entre les deux, en tant qu'objet scientifique à étudier. Mon histoire, je vais vous dire pourquoi dans quelques secondes, elle commence en 1991. On peut dire qu'en 1991, donc bon, ça fait déjà quelques années que les PC existent, en tout cas, on a une situation scientifique pour notre discipline telle que je viens de vous la décrire. On est aussi au début d'Internet. Alors, bon, un début d'Internet, c'est vraiment... restrictif de dire ça, parce que l'Internet, il existe déjà depuis longtemps, mais pour moi, c'est le début d'Internet en tant qu'aussi, comme l'ordinateur, objet de masse, où c'est le début d'Internet pour les scientifiques en général. Et pas seulement les spécialistes, les computer scientists, qui eux sont donc différents des computational. Et il y a aussi un contexte économique, c'est que c'est le... pour des raisons qui leur sont liées. Aussi, et c'est une des questions que je voulais te poser, mais enfin, l'apparition du terminal graphique, du graphic terminal, c'est quelque chose qui a été décisif, particulièrement pour notre science à nous, par rapport aux autres sciences qu'utilisent les ordinateurs. Bah, tout simplement parce que l'image d'une molécule, c'est quelque chose qui a lancé, au moins au point de vue économique, un business, et pas seulement une science, dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a eu un intérêt des constructeurs pour notre domaine, à partir de ce moment-là, donc en amont, et aussi un intérêt rapide et gros, l'industrie pharmaceutique pour notre domaine. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, en amont et en aval, au point de vue économique, à partir de ce moment-là, un intérêt économique à notre science, et elle a eu une valeur stratégique pour les vendeurs d'ordinateurs et pour les clients qui étaient une grosse industrie. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu clairement un contexte économique qui a pesé sur notre activité scientifique. Je dis notre, je m'identifie, mais à l'époque, j'ai... Bon. Et donc, il y a aussi un contexte politique. Parce que, bon, j'ai dit tout à l'heure que c'était une histoire qui se passait essentiellement aux États-Unis. Bon, en fait, c'est une histoire mondiale, mais bon, on ne peut pas négliger le fait que l'essentiel, l'ultra-majorité de l'activité scientifique, en tout cas à cette époque-là, dans ce domaine, elle est directement influencée par le contexte académique américain, et le contexte académique américain dans les années 80-90, c'est les années Reagan, définir rapidement dans la privatisation de l'université, ou en tout cas l'époque du Bayh-Dole Act, donc le fait de donner des outils pour breveter, faire des licences, gagner de l'argent avec des résultats scientifiques, et que la politique des universités américaines, à ce moment-là, elle a changé dans ce sens-là, avec la création de bureaux de technologie transfert, d'incitation à la academic entrepreneurship. Ça, c'est les années... ça arrive en Lorraine dans un mois. C'est le contexte académique de l'époque. Mon argument, c'est que donc la computational chemistry, c'est une discipline scientifique, mais c'est aussi une activité économique, au sens où, à la fois dans le contexte politique et dans le contexte économique, les gens vont se poser la question de la création de société, de la vente, etc. Là, je mets tripos et gaussiennes pour dire, d'une part, il y a des sociétés créées par des universitaires, d'autre part, il y a des sociétés. Enfin, comment dire, on peut diviser en deux la commercialisation du logiciel scientifique en disant, d'une part, il y a les petites équipes universitaires qui vendent leurs produits, d'autre part, il y a des grosses sociétés avec le soutien de grosses sociétés d'ordinateurs pour créer des grosses machines. Alors voilà, bon, ce schéma illisible, pour dire, donc le... Bon, il faut que j'explique un peu pour le rendre un peu lisible. C'est l'application software, c'est-à-dire le logiciel de modélisation. Il est au centre d'une série d'acteurs. Donc, qui sont ce que j'ai appelé les computational chemists, d'une part les utilisateurs, d'autre part les développeurs, qui peuvent être... j'ai dessiné comme deux ensembles distincts, mais bon, en pratique, il y a plein de gens qui sont les deux. Les utilisateurs qui peuvent être, d'une part, des clients, si c'est des industriels, qui peuvent être des universitaires. Les développeurs qui peuvent avoir des stratégies de diffusion de leurs outils commerciaux, à ce moment-là, ils deviennent aussi des vendors, ou au contraire, par exemple, dans le Quantum Chemistry Program Exchange, d'essayer d'avoir une diffusion académique, non-for-profit, que par ailleurs, à la fois, ces utilisateurs et ces développeurs sont liés par le financement des agences américaines, et parmi lesquelles le non négligeable le département de la défense, la DOD, qui eux, par ailleurs, font fonctionner aussi les supercomputing centers, qui sont liés, eux, donc au matériel, et entre l'application de software et le matériel, il y a plusieurs interfaces qui sont, et à l'époque c'était particulièrement tendu, les différents systèmes d'opération, les différentes machines, les différents systèmes d'opération, les différents compilers, et les différents langages de programmation. Bref. Donc ce beau schéma, pour vous dire que le logiciel de modélisation, c'est l'objet central, le boundary object, pour faire appel à une notion de sociologie des sciences, qui est donc au cœur des relations entre tout ce monde-là. Voilà. Donc, étudier tous ces mondes-là, mon corpus, parce qu'il s'agit d'une histoire des sciences, c'est une mailing list, donc une liste de diffusion. Ceux qui sont dans le domaine, vous la connaissez forcément, c'est la Computational Chemistry List, donc qui a été créée en 1991, c'est pour ça que mon histoire commence à cette date-là. Donc une mailing list, ça veut dire, je pense que vous savez tout ce que c'est, donc une communication asynchrone qui utilise Internet, qui utilise le email, qui marche sur le volontariat, il faut s'inscrire. C'est typiquement un médium des années 90, ce qui est assez remarquable avec la CCL, c'est qu'elle continue encore aujourd'hui à être aussi active. Donc il y a un modérateur, une communauté déclarée. Il n'y a pas contrairement à un forum, il n'y a pas d'édition possible puisque dès qu'on envoie le mail, tout le monde le reçoit. Il n'y a pas d'anonymat et l'échange peut être privé ou public. Et plus il y a le lurking, c'est-à-dire que cette liste-là, on peut la lire sans être abonné forcément. C'est-à-dire on peut être un lecteur sans être un membre actif. Donc elle a été créée en 91 à l'Ohio Supercomputing Center par Yann Labanowski, pour ceux qui le connaissent. Et, donc en 1991, je rappelle, donc Internet existait depuis longtemps, mais par contre, c'est clairement le web, lui, il faut attendre encore au moins une demi-douzaine d'années pour qu'il soit quelque chose quelque chose de masse. Et donc, c'est une époque où l'e-mail, c'est le moyen de communication rapide, le plus facile d'accès. Et la computational chemistry, c'est aussi l'époque où elle s'institutionnalise au sens apparition de périodiques, de journaux, etc. Donc, c'est une liste qui a eu un succès à la fois immédiat et continu, c'est-à-dire qu'elle a cru pendant quelques années, après elle s'est maintenue en nombre de messages et en nombre d'inscrits, et elle se maintient toujours encore à peu près une dizaine de messages par jour. L'intérêt, c'est que tous les acteurs que j'ai définis dans mon beau schéma, ils sont en fait présents sur cette liste. Il y a différents, elle est mondiale, il y a des développeurs, des users, des seniors, des étudiants, des vendeurs, des universitaires, etc. Donc, c'est mon deuxième beau schéma. Mon premier argument, c'est que c'est l'endroit idéal pour étudier ces différents acteurs ensemble. Donc, le parallèle avec mon schéma, c'est que la CCL, elle est au milieu de tous ces gens-là. Donc, un petit exemple, un message sur Charm and Charm. Vous voyez avec cette personne, donc le message en haut à gauche, elle travaille chez MSI, qui est une société qui vend des logiciels. Donc elle annonce, j'ai une nouvelle version de Charm. Vous avez aussi des universitaires académiques, juste qui posent des questions. Quel logiciel j'ai un problème avec Gaussian 98, t'as qu'à lire le manuel, d'où l'expression, etc. Donc, c'est aussi, c'est mon deuxième sociologue que je convoque, de même que Goffman, donc la sociologie de la représentation, qui dit, grosso modo, on peut dire en deux mots, dans un restaurant, les serveurs, ils se comportent pas du tout de la même manière que dans la cuisine, et donc que l'idée de l'image de soi qu'ils veulent donner, je simplifie. Mais de même, la liste permet elle abaisse les barrières, au sens que c'est un médium informel, contrairement à un article, contrairement à un rapport, etc., et bien que écrit, donc utilisable, et que c'est aussi un outil de dialogue. Donc elle abaisse les barrières hiérarchiques, géographiques, culturelles, disciplinaires, etc. Donc par exemple, en 94, l'idée de transformer la mailing list en groupe Usenet, il y a des gens qui se sont opposés pour ce que ça serait... ça serait rejeter tous ceux qui, dans leur pays ou plus certainement dans leur société, n'ont pas un accès à Internet, n'ont juste accès aux mails. L'exemple de mon message, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, mais le message du bas, donc il y a quelqu'un qui donne son avis sur le prix Nobel, il disait, on s'aperçoit que, parce que moi je ne savais pas du tout, je ne sais pas du tout pourquoi, Popol et Dewar ne peuvent pas se saquer. C'est des choses qui évidemment peuvent avoir lieu que dans un endroit où les gens se sentent en sécurité pour dire des énormités. Voilà, donc, du coup, c'est ça l'intérêt pour l'historien comme corpus, c'est parce qu'on va avoir quelque chose, on peut apprendre des choses qui ne sont pas officielles, quoi, grosso modo. Ensuite, les sujets de cette liste, 90%, c'est de demander, j'arrive pas à faire fonctionner Gaussian 98, t'as qu'à lire le manuel, etc. Les 10% d'autres, c'est des sujets scientifiques du style j'y connais rien en modélisation macromoléculaire, qu'est-ce que vous me conseillez, qui peuvent dégénérer en flame war, en guerre de religion, en religious war, vous voyez ce que je veux dire, selon s'ils donnent la théorie des orbitales frontières, c'est nul, etc. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Évidemment, si vous êtes abonné à une liste, si vous êtes sur un forum, vous vous rendez bien compte que ces flame wars, elles sont combattues. C'est-à-dire qu'on essaye de les limiter au maximum, parce que sinon, à chaque fois qu'il y a quelque chose de polémique, tout le monde se désabonne. Par contre, pour l'historien, c'est ça qui est le plus intéressant, parce que c'est là où les choses intéressantes vont commencer à être dites, parce qu'elles vont sortir les gens de leur courtoisie ou de leur façon de, comment dire, d'être poli, quoi. Voilà. Donc la controverse scientifique, qui est censée être quelque chose d'utile pour l'historien, parce qu'elle force les gens, les acteurs à se dévoiler. Là, bon, c'est rien de nouveau, hein, c'est quelque chose de l'utilité de la controverse scientifique, c'est pour apprendre des choses sur l'histoire, c'est quelque chose d'établi. Et donc, moi, mon troisième sociologue que je convoque, c'est la sociologie des épreuves, en disant que la situation de crise, c'est-à-dire la controverse scientifique, mais la situation de crise en général, elle permet d'observer des changements de structure. C'est mon point de mon argument, c'est que à ce moment-là, il y a eu un gros changement de statut de l'ordinateur, de statut du monde académique, de statut du contexte économique, et que qui dit structure, dit changement de structure, dit crise, dit tension, et c'est quelque chose qui rend les acteurs bavards sur ce qui se passe. Donc, il me reste 5 minutes, c'est ça ? 10 minutes, d'accord. Okay. Ça veut dire, j'utilise la mailing list pour apprendre des choses sur comment les acteurs, comment les computational chemists se voyaient et interagissent. Enfin, là, j'utilise l'imparfait, mais la liste, elle continue. Hein. Comment ils se voient et comment ils échangent. Et pour mettre en évidence en quoi le logiciel, puisque c'est mon sujet, est justement quelque chose qui a tout changé à partir de ce moment-là. Donc là, je pense que je vais manquer de temps et de possibilités techniques pour vous montrer une flame war dans son intégralité. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont abonnés à CCL en ce moment. La plus belle ça fait 20 ans que ça existe, donc, hein, au mois d'octobre dernier, qui s'appelle Science Code Manifesto. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Bon, d'ailleurs, ne lisez pas. Une flame war, ça veut dire, il y a quelqu'un qui lance un message que quelqu'un d'autre va trouver polémique, bah, comme un troll, quoi, sur les forums. Donc, il va s'engager une discussion qui va faire apparaître dans une espèce de rebond, tout un tas de concepts qui vont apparaître comme les tensions de la communauté à ce moment-là. Je suis pas sur mon ordinateur, je suis bête. je vous montrerai pas, mais... j'ai pris un exemple. Le 25 juin 1993, il y a quelqu'un qui présente à chaque fois, donc... Bon, il y a peut-être des gens parmi vous qui sont abonnés à TOT, la liste d'histoire des sciences, qui est une liste beaucoup moins vivante que la CCL. Dans tout l'essentiel des messages, c'est d'annoncer son dernier livre. Les gens annoncent leur dernière version du code qu'ils ont fait. Ce cas précis, le 25 juin 1993, c'est quelqu'un qui a annoncé une version de AM1, la méthode semi-empirique, qui s'appelait SAM1, SAM1, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc, bon, c'est un peu disparu, hein, c'était en 85. Mais en tout cas, cette annonce, grosso modo, il disait en deux mots, on vient de... Donc c'est un élève de Dewar, hein, qui était assistant de professeur quelque part, qui s'appelle Holder, qui est un universitaire, qui dit on vient de terminer, de paramétrer SAM1, et ça va sortir dans une publi bientôt, vous pourrez le citer, etc., et vous pouvez acheter mon logiciel. Et donc, là, du coup, il y a eu une réponse sur... est-ce que c'est quelque chose de valide de publier sa dernière version du logiciel? Est-ce que c'est une publication scientifique de faire ça? Donc la reconnaissance du code en tant que quelque chose de publiable ou pas, l'activité de est-ce que c'est une activité scientifique d'écrire un code? Mais d'un autre côté, il y a des gens qui ont répondu, c'est gentil de publier, mais il n'y a pas toute la liste des paramètres là-dedans, donc c'est inutilisable au point de vue de la reproductibilité. C'est-à-dire, donc, les gens ont invoqué l'éthique de reproductibilité pour critiquer un logiciel qui était, selon eux, pas assez détaillé pour pouvoir être utilisé par la communauté scientifique. Détaillé dans sa description, pas dans sa réalisation. Et donc, il y a une liste d'une dizaine de messages dans les jours, dans la semaine qui a suivi, sur, du coup, est-ce que c'est obligatoire ou pas de publier le code source du logiciel pour que, effectivement, le reviewer. Bonne chance au reviewer s'il va vérifier tous les codes sources, mais la communauté en général puisse décider si c'est un objet scientifique digne d'intérêt et reproductible. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1993, la question de l'ouverture du code, elle se posait surtout comme une question technique. Par contre, dans la flamework qui a eu lieu le mois dernier à propos du ScienceCon Manifesto. Donc, vous voyez ce que c'est le ScienceCon Manifesto? Peut-être pas. C'est quelqu'un qui a publié un manifeste comme quoi, qui dit justement ça, chaque code scientifique devrait être ouvert et vérifiable par la communauté, etc. Et c'est quelqu'un qui vient de la mobilisation du climat. Et vous voyez bien les enjeux politiques qu'il y a là-dedans, c'est que dans le climat, avec les républicains qui mettent en doute la validité scientifique, l'hyper-transparence est censée être l'argument contradictoire à ça. Mais sauf qu'en 1993, l'argument, au contraire, était plutôt technique au point de vue juste de la communauté scientifique. Et enfin, ça a dégénéré ensuite la discussion sur la commercialisation, c'est-à-dire que si on ouvre le code, comment rendre compatible le fait d'ouvrir le code et le fait que pour certains, ils ont pris, c'est fini, non, 5 minutes, d'accord. C'est pour certains poussé ou non par le bureau de technologie de transfert de l'université, ils ont créé un objet commercial de leur code scientifique. Le cas de Gaussian, donc que tous les chimistes computationnels ici connaissent parfaitement, c'est le best-seller des logiciels, en tout cas en chimie quantique. Il est extraordinaire parce que et si jamais il y a des computer scientists dans la salle qui dans d'autres domaines, j'aimerais bien savoir s'ils ont vu des cas comme ça, c'est que c'est un logiciel qui ouvre son code source, qui le rend accessible à la communauté, en tout cas à celui qui le vend, mais qui est un logiciel propriétaire, au sens où c'est pas du tout un open source software, et il y a une chose impressionnante quand on regarde dans la liste, c'est que les mentions à Stallman ou au GNU, au logiciel libre en général, elle commence à apparaître, mais avec des années de retard par rapport à la communauté de la computing science, quoi. C'est-à-dire quelque chose qu'on sent qui a été intégré depuis, mais qui n'est pas du tout de cette époque-là, quoi. Bref, donc, le cas de Gaussian, il est incroyable parce que c'est un objet qui est scientifiquement reconnu. Au point de vue de la liste des publications, les cités par exemple, c'est un logiciel qui est commercialement successful, qui est donc qui donne son code source à celui à qui il le vend, mais qui a une licence propriétaire telle qu'il l'interdit de un tas de choses, mais assez incroyable, au point d'interdire, par exemple, d'utiliser le logiciel à des universités entières. Heureusement qu'on est entre nous, parce que en plus, ils ont des avocats. Au point d'interdire à des universités entières qui, à l'intérieur de laquelle il y aurait quelqu'un qui développe un logiciel concurrent. Par exemple, pour éviter la comparaison entre les deux, pour éviter que le code source qui révèle soit utilisé pour un concurrent. Et donc avec des procès tout au long des 20 années, donc il y a des Mike Frisch, qui est le CEO de Gaussian, il intervient régulièrement, il y a une paranoïa incroyable, et donc la tension qu'il y a entre révéler le code source, parce que c'est scientifiquement ce qui lui paraît le plus valide, mais en étant un objet commercial, ça implique une attitude hyper agressive au point de vue de la protection de son objet. Bien, il faut que j'arrête là, ça y est. Donc j'ai présenté plus ma méthode que mes résultats, mais je voulais dire que aussi, une mailing list, c'est aussi quelque chose qui évolue dans le temps, et que justement comparer les différents arguments au début des années 90 et en 2011, c'est quelque chose. Par exemple, le fait que le code source soit un objet, ça devient un objet éthique plutôt qu'un objet pratique, et aussi par des outils de quand on est geek, on se refait pas. Même dans les sciences humaines, j'ai envie d'utiliser l'ordinateur pour voir. Par exemple, les occurrences de mots de vocabulaire en fonction du temps, par exemple freeware, et ça permettra, j'espère, de voir comment tout ça a évolué. Voilà, merci.
Ouais.